I'd like to have a democracy.
Élection municipale 2020, deuxième épisode de notre série d'interviews des candidats à Arras sur Radio PFM 99.9 Libre et sans pub et en collaboration avec La Voix du Nord Arras. Je suis avec Hubert Ferré, journaliste et chef de rédaction adjoint à La Voix du Nord Arras. Hubert, salut.
Bonjour Nico.
Et notre invité aujourd'hui, Grégory Watin, tête de liste d'Arras Écologie, liste soutenue par Europe Écologie Les Verts et Génération S. Alors,
bonjour Nico, bonjour Hubert.
Grégory Watin, vous étiez novice en politique avant cette campagne. Comment est-ce que vous vivez cette campagne? Comment vous la sentez?
Eh bien écoutez, cette campagne se passe très bien. Alors novice en politique, oui, sur la campagne en elle-même, mais pas, je ne découvre pas la politique aujourd'hui quand même. Il y a une vraie énergie à Arras, il y a quelque chose de très beau qui se passe. C'était aussi pour ça que je m'étais impliqué dès le départ dans la campagne, avant même de savoir que je serais tête de liste.
On va évoquer avec vous un certain nombre de propositions du programme qui est sorti. Et comme on peut s'y attendre, il y a beaucoup de ces propositions qui concernent l'écologie, économie d'énergie, clause écologique dans les marchés publics, cantine bio, viser le zéro déchet, arrêté municipal anti-pesticides. Actuellement, il y a un arrêté municipal anti-herbicides. De manière générale, comment vous voyez l'action de la mairie actuelle qui fait déjà des choses en matière d'écologie, et comment vous proposez autre chose?
Alors, on propose surtout d'aller plus loin, forcément. Et j'ai envie de dire, depuis 1983, on propose et on essaye de faire avancer les choses. Aujourd'hui, l'urgence climatique s'impose à nous et il n'est plus temps de la demi-mesure, vraiment. En effet, l'arrêté anti-pesticides sur Arras, il est très particulier. Déjà, on n'est pas dans une commune agricole, donc évidemment, ça n'impacte pas autant qu'une commune qui le serait. Mais c'est aussi un signal très fort envoyé à la population. Dans notre proposition, on a la protection des enfants qui est notre priorité, la protection des citoyens, des habitants d'Arras qui est au cœur de notre projet. Dans tout ce que vous venez de dire, c'est d'abord ça qui prime. Et le pesticide est vraiment un des facteurs principaux de dangerosité pour la population. Donc, décider d'un arrêté anti-pesticide nous semble une évidence.
Hubert ?
Oui, alors comme le disait Nico, il y a beaucoup de... La campagne électorale à Arras est teintée de vert. Alors vous êtes normalement les porte-paroles officielles et historiques de l'écologie. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver l'écologie sur tous les programmes pratiquement? Et dans quelle mesure répondre justement aux attentes des habitants?
Ben, j'ai envie de dire, il était temps et peut-être parfois on peut se poser la question du trop tard, mais on va nous poser un problème, une problématique positive, on va dire. On a un programme qui est une promesse pour Arras, c'est une ambition, une bonne humeur et voilà, porter l'écologie avec de la joie de vivre aussi. Oui, alors on peut repeindre en vert rapidement les idées des uns des autres. Tant mieux, c'est toujours ça de gagner. Malheureusement, on peut parfois douter de la sincérité des uns ou des autres, pas forcément au point de vue que local, mais au point de vue national aussi. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, une prise de conscience de la population. Il était temps que les élus s'accaparent aussi de cette question-là. Maintenant, j'ai envie de dire, l'écologie, oui, mais avec les écologistes surtout.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de surenchère dans les propositions des uns et des autres, et peut-être aussi de votre part là, j'ai lu 1 million d'arbres plantés sur la communauté urbaine d'Arras. 1 million, c'est...
Oui,
ça fait
alors,
beaucoup.
1 million d'arbres, il y a plein de formes d'arbres qui existent, évidemment. Mais non, il n'y a pas de surenchère. Il y a une urgence vraiment à remettre le végétal au cœur de la vie, de protéger le vivant dans tous les sens du terme. Et pour protéger le vivant, y compris l'homme, il faut revenir au végétal dans la ville. L'arbre, c'est l'essentiel à la vie. C'est la biodiversité qui se crée autour. Non, ce n'est pas une surenchère. C'est une réalité et une nécessité. Et quand on plante un arbre, ce n'est pas demain qu'il pousse. Donc la question d'urgence, elle est aussi là, c'est-à-dire que vraiment, si on ne s'y met pas maintenant, les questions environnementales pour les 20 ou 30 ans qui arrivent seront encore plus graves. Donc non, ce n'est pas une surenchère, c'est une nécessité vraiment.
Il y a des dossiers qui dépassent Arras, qui touchent la communauté urbaine d'Arras, mais aussi même un peu plus loin. Par exemple, la question des méthaniseurs, qui est absente de votre programme. Est-ce que vous êtes pour ou contre les projets de méthanisation dans l'Arrajois ?
Alors, souvent... les réponses qu'on peut penser écologiques sont pas à proprement parler écologiques de la manière dont on les fait. Le méthaniseur, c'est une super idée, à condition que ça reste un méthaniseur local. On parle beaucoup d'autonomie énergétique. La question du méthaniseur, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un méthaniseur localement pour une structure fermière, par exemple, qui peut développer le chauffage pour quelques habitations autour, pour la ferme en elle-même, l'exploitation agricole? Nous, on parle beaucoup, par exemple, de permaculture. C'est pas inintéressant de poser la question du méthaniseur à petite échelle. Est-ce que c'est créer des méthaniseurs industriels en périphérie de ville, faire venir des camions pour les alimenter? Non, certainement pas. Donc, il faut faire très attention quand même à la question écologique qui, parfois, donne de fausses bonnes idées, quoi, de penser que quelque chose est forcément écologique. Souvent, en écologie, la bonne réponse, c'est dans la modération, dans l'économie des énergies aussi, quoi. Donc, il faut faire très attention à pas industrialiser un processus qui peut être utile, mais qui devient dangereux s'il est... c'est un peu le problème de notre société. C'est-à-dire que quand on trouve une solution bonne, on veut la faire se démultiplier jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même un problème pour la société, quoi. Donc le méthaniseur, oui, mais à petite échelle, et à échelle écologique et locale et en circuit court, j'ai envie de dire.
Il n'y a rien non plus sur la question de la chaufferie bois, biomasse à Arras. Est-ce que c'est un problème ou pas? L'incinération des déchets, parce qu'il me semble qu'il y a quand même une grande partie des déchets... à Arras, qui sont incinérés. Bon, c'est pas un thème de campagne très, très porteur, mais c'est un thème important.
Oui, bah c'est la même réponse, c'est-à-dire que en écologie, le bon déchet, c'est le déchet qui n'existe pas. Donc évidemment, la réponse, c'est d'aller vers le zéro déchet, d'aller vers l'économie de consommation d'énergie, c'est-à-dire que c'est pas ouvrir les fenêtres, chauffer encore plus, c'est essayer de trouver des systèmes d'énergie propres et surtout de traiter par exemple les précarités énergétiques des habitations et des bâtiments publics. C'est-à-dire que souvent, la mauvaise réponse, et j'ai envie de dire la réponse de l'ancien monde, c'est de continuer à faire comme on faisait en trouvant des substituts aux énergies ou aux modes de fonctionnement qu'on avait jusque-là. En fait, souvent, la vraie réponse écologique, c'est de changer notre mode de fonctionnement. Donc, c'est les déchets, c'est d'abord réduire le déchet. On le voit avec la question du plastique, par exemple, c'est pas en essayant de faire des pailles qui sont jetables ou pas jetables, des gobelets en plastique récupérables ou pas récupérables. Non, c'est d'arrêter parfois d'utiliser certains produits. Et sur le déchet, c'est la diminution du déchet d'abord. Mais les citoyens le font, on voit bien dans les groupes zéro déchet qui existent un peu partout, les astuces aussi pour fabriquer ses propres produits d'entretien. Il y a une volonté et une ambition des gens, tout simplement, d'être dans cette logique-là. Donc la question de la chaufferie et du chauffage urbain, c'est la même, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à pas se dire, tiens, on a une énergie qui serait plus ou moins propre, donc on va la consommer encore plus. Non, il faut faire attention aussi d'où vient le carburant, en fait, de ce chauffage et isoler, c'est la première des choses à faire. Ouais.
Hubert ?
Vous parliez tout à l'heure en disant que le temps n'est plus à la demi-mesure. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, on a quand même vu un mandat à l'échelle communautaire de la CUA teinter un peu plus de vert qu'il n'avait été, ça n'avait été le cas auparavant. C'est encore trop dans la demi-mesure. Le master plan de la gare, par exemple, où le plan de déplacement, les déplacements doux sont vantés, sont mis en avant, sont mis en exergue. Est-ce que vous trouvez ça suffisant ou il faut encore aller plus loin?
Bah, je crois que ce n'est pas une question d'aller plus loin, c'est une question de logiciel en fait. Quand on pense l'écologie viscéralement et dans son ADN, les propositions sont complètement différentes de celles qu'on peut rencontrer pour le moment. Je pense que pour une part des élus et des habitants aussi, voilà, il faut se mettre dans une logique de pensée complètement nouvelle par rapport à l'écologie. Et le master plan de la gare, il n'a pas pris en considération la totalité des problématiques environnementales ni de déplacement des populations. Et en ça, c'est une demi-mesure, mais c'est une demi-mesure involontaire, j'ai envie de dire. C'est parce que le mode de pensée qui a poussé cette réflexion-là n'est pas impliqué dans l'écologie au sens où elle devrait l'être. Donc,
Est-ce que ce n'est pas compliqué aussi parfois, je pense... on a tous envie d'avoir moins de voitures en ville. Mais pas certains commerçants, pas la plupart des commerçants. Eux disent, non, il nous faut les voitures, il faut qu'il y ait du stationnement, il faut qu'on puisse venir nous voir, acheter chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Comment les rassurer? Comment vanter les autres modes de déplacement en leur disant, si, c'est possible?
Oui, alors, non seulement c'est possible, mais en fait, c'est mieux. C'est que les communes qui ont déjà appliqué de la piétonnisation ont un centre-ville plus dynamique. On retrouve du cadre de vie, en fait. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'on ne peut pas imaginer un centre-ville comme une sorte de grand mall de centres commerciaux. Ce n'est pas ça. C'est la diversité du centre-ville, l'originalité du centre-ville qui fait qu'il est attractif ou pas. On ne va pas faire ses courses, par exemple, à Londres parce que c'est Londres. On y va parce qu'il y a des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Pour certaines personnes, c'est important. Le centre-ville d'Arras, on voit bien en ce moment ce qui se passe. Il y a des commerces qui ferment, mais il y a aussi énormément de nouveautés. Et c'est ces nouveautés-là qu'il faut promouvoir. Et si on installe du détail près, du recyclage. Voilà, on voit bien qu'il y a une nouvelle énergie qui se crée autour des centres-villes aussi. C'est pas faire un copier-coller des centres commerciaux. Et par rapport aux déplacements et aux stationnements, si le centre-ville est attractif par son originalité, les gens s'en fichent de faire un petit peu de navette gratuite et de se garer en périphérie. Si c'est pour avoir un centre-ville plus vivable, plus végétalisé, ça sera plus agréable pour tout le monde, ouais.
Alors vous, la piétonnisation que vous proposez, parce qu'il y a d'autres listes qui proposent aussi de la piétonnisation, elle va de où à où en gros? Grand Place, Place du Théâtre, tout ça complètement piéton?
Oui, et ça va même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a deux formes de piétonnisation. Il y a celle du vivre ensemble, on parle du centre-ville, voilà, ça va donner de l'énergie aussi au centre. Mais il y a aussi les périphéries scolaires des écoles qui doivent être piétonnisés là pour une question de sécurité. Sécurité vis-à-vis des voitures. Il est intolérable aujourd'hui d'avoir des voitures qui circulent à les heures de sortie et d'entrée des écoles, pour deux raisons, pour les accidents corporels qui peuvent y avoir lieu, mais aussi pour la question de la pollution. Les particules fines à l'heure de sortie et d'entrée des écoles, c'est plus acceptable, les pics de pollution aujourd'hui. C'est le rôle de la municipalité de protéger les enfants en premier, j'ai envie de dire, de cette pollution-là. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture de la piétonnisation, y compris souvent on les oublie, mais les seniors par exemple ont beaucoup de difficultés à se déplacer en centre-ville parce que les feux de circulation ne sont pas adaptés, parce que les passages piétons manquent, parce qu'il y a des zones où vraiment c'est un danger de traverser et où le trottoir n'est pas adapté. Donc il faut repenser la mobilité dans sa globalité et le piéton doit être au cœur de cette réflexion-là. Ouais.
Le transport en commun gratuit, ça va dans le même sens. La question c'est comment on finance ce transport en commun gratuit?
Alors aujourd'hui, on a un taux assez bas, donc on peut le financer. Mais surtout, en réalité, il faut se poser la question en autre terme, c'est-à-dire de se dire...
Un taux assez bas de...
De taxes sur les entreprises pour les transports.
D'accord. Voilà.
Mais sans entrer là-dedans, en fait... La question du transport, c'est un choix. C'est-à-dire, est-ce que ça coûte? Oui, ça coûte forcément, mais ça coûte aussi aujourd'hui. Et là où on veut mettre l'argent, est-ce qu'on se dit on dynamise le centre-ville en faisant venir les gens et en faisant circuler gratuitement? On voit dans les communes qui l'ont appliqué, en fait, ça crée vraiment une vraie dynamique de mouvement, en fait. Il suffit de prendre Dunkerque, c'est vraiment un exemple incroyable, où les gens revendent leur voiture. Je veux dire, ça redonne du pouvoir de vivre. On peut parler de la dynamique du centre-ville, mais si les gens n'ont plus les moyens d'acheter, ça ne va pas aller très loin. La question de la gratuité des transports, elle ouvre tout ça, en fait. Elle ouvre ça, mais aussi, elle répond à la question, on parlait il y a 5 minutes de la pollution, elle répond aussi à ça. Moins de voitures, c'est moins de pollution, c'est plus de facilité à circuler, c'est plus de vivre ensemble aussi. Voilà, c'est une globalité. Le voir uniquement par la question du coût serait une erreur, je pense, de jugement, ouais.
Alors ça veut dire qui est-ce qui paye? Alors, il y a la taxe, il y a les gens, donc par la contribution des impôts, c'est ça?
Non, comme c'est actuellement, c'est juste un choix de placer l'argent autrement, quoi, en fait. C'est pas... comment dire, aujourd'hui, il y a déjà une taxe qui existe. Le bus, parce qu'il coûte, et pas le 1,20 du ticket, il n'est pas 1,20, il coûte plus à la communauté. Donc, est-ce qu'on retire cet 1,20-là? Oui, on peut le faire, ouais, clairement.
Dernière question, peut-être sur l'écologie. En tout cas, votre programme s'intitule Les pieds sur terre, mais les pieds vont un petit peu aussi dans l'eau. Il y a la question de l'eau qui est évoquée. Et il y a une proposition qui me pose question, c'est faire de la Darse Méolan, c'est un lieu de baignade propre et sécurisé. Alors, moi qui suis arrageois et quand j'étais jeune, je me souviens, en centre de loisirs, on m'a plus ou moins forcé à faire de la joute dans la SCAP. Donc, j'ai bu la tasse à la SCAP et ça me fait un petit peu peur, cette proposition, j'avoue. C'est réaliste, ça
C'est réaliste, mais pas demain. C'est réaliste si on arrive à appliquer toutes les mesures qui vont avec, c'est-à-dire aussi la réouverture du crinchon et la renaturalisation du crinchon. Mais c'est un beau challenge, parce que ça veut dire vraiment retrouver la nature telle qu'elle doit être dans la ville. Et aujourd'hui, s'il y a des pollutions, il va falloir les traiter. Et quand on aura réussi à les traiter, on pourra ramener la baignade à la Darse. Ouais. Mais c'est, en effet, c'est, le temps de l'écologie n'est pas un temps non plus de la rapidité d'Instagram ou de Facebook. C'est un temps dans le temps long. D'ailleurs, pour ça, on installe un conseil du temps long qui pourra aussi se porter garant de la faisabilité dans un temps qui dépasse peut-être le mandat de la réhabilitation de la Darse. Ouais.
On est toujours en compagnie de Grégory Watin, tête de liste d'Arras Écologie au municipal à Arras. On évoque maintenant des points du programme concernant les questions sociales et aussi démocratiques. Il y a un point sur, enfin, il y a une série de propositions intitulées Plan École 2026. Mmh. Donc, c'est pour répondre à quoi ce que vous considérez comme des inégalités au niveau scolaire à Arras?
Il y a une inégalité écologique là pour le coup. Avec des écoles où on a froid l'hiver et où on a trop chaud l'été, où on doit donner parfois deux bouteilles d'eau quand il y a des pics de chaleur. Oui, il y a un grand travail à faire sur ça. L'école, c'est au centre du programme. Et en fait, petit à petit, quand on a établi, quand on a travaillé dans les groupes de travail le programme, on s'est rendu compte que par l'école, on touchait à énormément de sujets qui étaient dans notre programme. La cantine bio, la végétalisation des cours d'école, la piétonnisation des périphéries des écoles. En fait, tout ça, ça revient quand même autour de l'enfance et de la protection des enfants. Je veux dire, la question environnementale, elle se pose aussi par rapport à ce que l'on va faire, nous, génération en mesure de prendre des décisions pour les jeunes, pour les enfants, pour ceux qui sont à naître. Et l'école, c'est là où tout se passe pour ces jeunes-là. Quand on dit qu'on va essayer et qu'on va le faire de stopper les perturbateurs endocriniens à l'école, c'est-à-dire de ne plus mettre de plastique à la cantine, de ne plus chauffer des produits dans les micro-ondes, de ne plus avoir du matériel qui peut être nocif pour les enfants, dans les crèches, aller vers des produits d'entretien, des produits pour les enfants qui ne sont pas nocifs pour leur santé. On a eu un grand débat santé la semaine dernière avec deux médecins et une sage-femme. Je vais vous dire, vraiment, il y a une inquiétude des parents et à juste titre sur tout ce qui peut atteindre la santé des enfants. C'est notre rôle vraiment de prendre ça à bras-le-corps. Et donc le plan école, il touche à tout ça. Il touche à la santé des enfants, il touche aussi à leur sécurité, il touche aussi à leur précarité énergétique. C'est pas normal que les enfants puissent avoir froid à l'école ou avoir trop chaud en été. Il faut réhabiliter énergétiquement les écoles, il faut travailler sur le 100% bio à la cantine et le 100% local. C'est un tout, c'est-à-dire que le programme, vous l'avez vu, c'est pas une succession de petites idées, c'est un tout qui est, tout est connecté, que ça soit la question des transports gratuits pour accéder aux activités sportives pour les enfants, que ça soit pour les seniors, que ça soit sur la question du bio à l'école, qui va amener aussi la réflexion de comment on mange de manière générale, jusqu'à voilà, stopper la publicité en périphérie des villes ou arrêter d'étendre les supermarchés en périphérie de la ville. Tout ça, c'est cohérent, c'est-à-dire que si on met la protection des enfants au cœur du projet, il faut qu'on les protège globalement, y compris de la publicité, des nuisances de la 5G par exemple. Enfin, il y a tout est lié. L'écologie, c'est ça, et c'est pour ça en quelque sorte que tout à l'heure Hubert disait c'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que ça touche à plein de choses. C'est pas juste on dit bon, on arrête les voitures, c'est comment on fait pour qu'on vive un peu moins avec la voiture, mais qu'on vive mieux par rapport à ça, quoi.
Hubert ?
L'école, la réussite scolaire, c'était justement le credo de Frédéric Le Turc durant le mandat qui vient de s'écouler. C'était sa priorité, il l'a répété à l'envi. Vous avez le sentiment qu'il a échoué là sur ce point-là ?
Bon, vous savez, depuis le début de la campagne, je dis que je ne vais pas faire le bilan de Frédéric Le Turc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver. Je pense qu'on n'a pas la même vision de ce que doit être l'école, certainement. Et peut-être que notre logiciel n'est pas tout à fait le même que celui de la municipalité actuelle. voilà, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a une grande demande des parents d'élèves et des enseignants aussi de remettre l'école un peu sur les pieds sur terre, j'ai envie de dire. Mais ouais, vraiment, on a un travail à faire là-dessus qui est prioritaire. Ouais. Par exemple, juste hein, la question de la, je reviens là-dessus, mais la sécurité des enfants en périphérie d'école, ça nous semble quelque chose de capital. Si le 23 mars prochain, on est aux manettes, ça sera une des premières choses qu'on mettra en place. Ouais.
Vous parliez de logiciel. Le logiciel que vous avez, que vous entretenez, ça pouvait être le même que celui de la liste que soutient France Insoumise ou que d'autres. France Insoumise, que nous avons reçue, a au moins une vingtaine de points qui portent sur l'écologie. Pourquoi vous êtes-vous pas entendu pour partir ensemble, pour vous donner plus de chances de...
Je comprends la question. Il y a deux choses. D'abord, notre collectif s'est mis en route il y a plusieurs mois, déjà bien avant l'été, et s'est mis en route sans se poser les questions politiques. C'est-à-dire que c'est d'abord des citoyens qui ont porté ce mouvement. Et donc, la question des alliances politiques ne s'est pas posée pour 90% des gens qui composaient Race Écologie. Ensuite, il y a une question quand même, moi, qui m'intrigue, et je trouve que c'est la question démocratique. Je crois, vraiment, sincèrement, qu'il est important pour les citoyens de pouvoir, au premier tour au moins, porter leur voix sur une liste qui leur semble la plus cohérente par rapport à leurs idées. Et de vouloir absolument faire un amalgame de tout le monde, même si, avec la France Insoumise, en effet, nous sommes très proches, on a une entente cordiale avec eux, je pense que c'est important au niveau identité politique aussi de pouvoir à un moment donné au moins pour les citoyens avoir le choix entre deux listes qui portent évidemment des points de convergence mais aussi parfois des aspérités qui sont pas tout à fait les mêmes et je pense que c'est le jeu démocratique aussi de pouvoir se présenter au premier tour avec une identité qui est la sienne. Nous avons une identité 100% écologique. Ça nous semblait important de la porter. Ouais.
S'il devait y avoir un deuxième tour et que vous vous rassembliez avec d'autres listes, justement, quelles aspérités vous demanderiez aux autres listes de gommer ?
Il n'y a pas à gommer, il y a à venir comme l'a fait Génération S en fait sur un programme écolo. Je ne crois pas qu'il y ait de choses dans notre programme qui puissent heurter, si c'est la France Insoumise en particulier, qui puissent les heurter. Donc c'est pas ça la question. Voilà, c'est vraiment est-ce qu'on est tous en capacité de se mettre derrière un programme. C'est ce qui a été fait sur Arras Écologie, c'est-à-dire que individuellement, on est tous derrière ce programme, on le porte collectivement. C'est resté ouvert très longtemps, ce collectif, à plein de citoyens, et on reste dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'au lendemain du second tour, du premier tour, pardon, la liste Arras Écologie sera autant ouverte qu'elle l'est aujourd'hui, quoi.
Il y a un point que vous avez en commun, je pense, enfin en tout cas sur le thème, c'est encadré en rouge hein, dans votre petit programme, c'est l'abbaye Saint-Va qui pose question, bien sûr, au niveau local. Hein. Il y a ce projet d'hôtel de luxe à l'intérieur de l'abbaye Saint-Va. Comment vous voyez ça et quelle opposition? Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Parce que j'ai pas très bien compris là, le projet.
Alors, ce qu'on propose d'autre, je pense que c'est ce qui aurait dû être proposé dès le départ, c'est-à-dire quelque chose de démocratique sur cette question. L'abbaye Saint-Va, c'est aux Arrageois de décider quel est le projet qu'ils veulent porter dessus. Et pour ça, le rôle des élus, c'est d'apporter des éléments, mais pas de proposer quelque chose clé en main qui serait indiscutable. Il y a énormément d'idées sur ce projet. C'est un lieu qui est très symbolique pour Arras. C'est pas un lieu anecdotique. D'y mettre juste un hôtel comme ça, de décider quasiment du jour au lendemain que ça serait un hôtel de luxe, semble, je crois, pour la plupart des Arrageois, quelque chose de surréaliste. Donc il faut revenir à un questionnement, à un vrai programme de réflexion sur l'abbaye Saint-Va et certainement pas d'imposer un choix, quel qu'il soit d'ailleurs, sur cette abbaye. En dehors du fait que ce soit un hôtel de luxe en particulier, c'est la façon dont ce projet a été amené aussi qui pose question et il faut que les Arrageois se saisissent de ça pleinement. On n'a jamais dit qu'on avait la réponse à tout, sur tout. Justement, c'est ce qui fait peut-être notre distinction par rapport à d'autres. Et nous sommes dans la discussion en permanence. Ce matin, j'avais en discussion des gens qui ont ouvert une chambre d'hôte à Arras. Je pense que leur demander à eux ce qu'ils pensent d'un hôtel de luxe qui viendrait s'installer à Arras fait sens. Énormément d'habitants d'Arras se sont investis dans les chambres d'hôtes pour aussi créer du vivre ensemble à Arras en accueillant les gens. On parle beaucoup du rayonnement d'Arras. Moi, j'y crois énormément. C'est une ville d'accueil des touristes, mais pas que. Et c'est une autre façon aussi d'accueillir les gens que de les accueillir en chambre d'hôte, que de les accueillir uniquement en hôtel de luxe. Voilà, la question reste ouverte.
Bien.
Oui, grosso modo, sur ce dossier, vous déplorez, vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de concertation, qu'on n'ait pas demandé aux Arageois ce qu'ils voulaient faire. C'est pourtant l'un des credos de Frédéric Le Turc de dire qu'il a mis en route une certaine démocratie participative. C'est selon vous une façade ou elle existe véritablement ?
En l'occurrence, sur le projet Saint-Val, moi, je n'ai pas vu arriver ce projet de manière très ouverte et très à discuter. Je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle la participation des habitants. Il faut le faire vraiment et sincèrement. C'est aussi, on parlait de logiciel, une autre façon d'envisager la politique qui n'est pas propre à Frédéric Le Turc. Je pense que c'est quelque chose qui est en évolution dans notre monde aujourd'hui. Là, et on voit bien que les citoyens se saisissent des questions d'abord environnementales, mais aussi des questions comme l'abbaye Saint-Vaast qui d'un coup a fait réagir quand même des collectifs. Il y a une énergie quand même dans les villes qui est incroyable. Les associations, les collectifs qui se créent portent d'abord les vraies problématiques. Je veux dire, la liste Arras Écologie, par exemple, elle est, à mon sens, la synergie de plein de mouvements qui existent, de citoyens qui se sont engagés pour la ville et qui, à un moment donné, se disent « bon, on va aussi s'engager pour les municipales ». Mais si on regarde sur l'abbaye Saint-Vaast en particulier, oui, la vie des habitants est importante et n'a pas été, je pense, suffisamment sollicitée sur cette question. Ouais.
Peut-être une dernière question, c'est sur les conseils municipaux filmés, publiés en direct sur Internet. Ça fait partie d'une exigence de transparence de la vie démocratique pour vous ? C'est une proposition qui a été refusée par Frédéric Le Turc dans son mandat, parce que l'argument c'est de dire « attention, ça va devenir un spectacle ».
Oui, alors le spectacle, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment une question de transparence. Il n'y a pas à tergiverser sur ces questions-là. Il faut que les actions des élus soient complètement lisibles et visibles par tous. L'accessibilité, en direct ou pas d'ailleurs, au conseil municipal, c'est une évidence. Ça se fait dans beaucoup de pays, ça se fait dans beaucoup de communes. C'est aussi rendre un petit peu quand même la parole de l'élu disponible immédiatement aux citoyens et d'inclure le citoyen dans le processus démocratique. On ne peut pas être complètement opaque et imaginer qu'après les gens se saisissent des projets. Il faut que le citoyen puisse avoir accès à tout ce qui se passe, en effet, dans la mairie. Je pense que aujourd'hui, c'est plus tellement discutable. Les gens ont besoin de savoir. Il y a vraiment, je venais d'en parler, une appropriation citoyenne vraiment des actions qui se mènent dans une ville. C'est normal que la municipalité soit transparente à tous les niveaux, y compris en filmant le conseil municipal. Ouais.
Grégory Watin, tête de liste d'Arras Écologie, liste soutenue par Europe Écologie Les Verts et Génération S. Il était au micro de Radio PFM avec la collaboration d'Hubert Ferré, journaliste et chef de rédaction adjoint à La Voix du Nord Arras. Retrouvez cette interview dans son intégralité sur notre site radiopfm.com. Retrouvez aussi un compte-rendu écrit de l'interview dans les pages de La Voix du Nord d'aujourd'hui. Les interviews des candidats des autres listes aux municipales à Arras, c'est à venir dans les jours prochains dans ce magazine Info 30. Democracy.